Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Natalia. Bonjour, les défilés de prêt-à-porter ont commencé à Paris. On présente les collections femmes de l'hiver prochain. Mais les fashionistas, les victimes de la mode, est-ce qu'elles pensent à la planète quand elles s'habillent? Certains sont prêts à dépenser des fortunes, en tout cas, Perrine Juhan les a rencontrés.
Donc aujourd'hui, je porte un Hugo imperméable manteau avec un overall et une veste Napa Piri. Un bum bag de Napa Piri aussi. Ma casquette préférée de Marni. Je pense que je vaux 800 euros. C'est des pièces que tu peux porter dans 10 ans, dans 20 ans. Et c'est ça que j'aime. C'est un peu mon style.
Alors je porte tout Dior. Les chaussures, la jupe, la veste. Le sac, c'est Dior. Tout le Dior. Valeur. 30 000.
Les vêtements de luxe hors de prix d'un côté, la mode jetable des grandes enseignes de l'autre, ce qu'on appelle la fast fashion, et de plus en plus de créateurs qui essaient de trouver une voie au milieu, comme la marque de vêtements pour hommes Loom et sa cofondatrice Julia Faure.
Karl Lagerfeld vient de mourir, Karl Lagerfeld adorait la mode, il était sapé pareil tout le temps. Donc aimer la mode n'a rien à voir avec le fait de surconsommer.
Loom, qui s'inscrit dans les traces de Patagonia ou de Veja, deux marques qui ont fondé leur réussite sur de la mode éthique et abordable. Pas de solde, une collection qui s'inscrit dans le temps, une vente sur Internet uniquement. On va y revenir, mais d'abord, c'est la chronique d'Ève Minot. Bonjour Ève.
Bonjour Juliette.
Ah, même si la fast fashion semble avoir de beaux jours devant elle, depuis quelques années, un mouvement opposé apparaît aussi bien du côté des créateurs que des consommateurs. Un mouvement qui s'est autoproclamé slow fashion, la mode lente en anglais. Les intentions sont bonnes, mais la route est encore longue, Ève.
Mais pour commencer, je vous propose quelques chiffres qui vous feront prendre conscience de l'ampleur du phénomène de la fast fashion. Pour le seul marché français, ce sont 600 000 tonnes de vêtements mises en vente chaque année, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. 20 kilos de vêtements consommés par an et par personne, soit deux fois plus qu'il y a 15 ans. C'est simple, 5 millions de tonnes arrivent tous les ans sur le marché européen et à peu près 4 millions sont en même temps mises au rebut.
Une accélération de la production, c'est très rentable, mais c'est très polluant.
Après le pétrole, l'industrie textile est la plus polluante au monde. Elle représente 8% du total des émissions de gaz à effet de serre, selon une étude de 2018 réalisée par le cabinet Qantis. Plus que les trafics aériens et maritimes réunis, sans compter les conditions de travail de certaines usines délocalisées.
Un phénomène qui provoque une prise de conscience du consommateur, donc, avec un résultat, le grand retour du seconde main, le marché d'occasion.
Oui, la révolution vintage a été largement facilitée par le numérique. Plus besoin de boutiques spécialisées, vous pouvez directement photographier et mettre en ligne vos vêtements à vendre en fixant le prix. Le leader actuellement en Europe, en tout cas en France sur ce marché, est une start-up lituanienne, Vinted, qui revendique parmi ses utilisateurs près de 60% chez les 18-29 ans. Le problème reste que les vêtements issus de la fast fashion sont de mauvaise qualité et donc vieillissent très mal, ce qui ne correspond pas du tout aux enjeux du seconde main. D'autres sites français comme Vestiaire Collective par exemple se sont sectorisés eux sur le marché du luxe.
D'où l'arrivée d'un nouveau phénomène, Ève, l'upcycling.
Oui, que l'on pourrait traduire par recyclage amélioré. Cette fois-ci, l'idée est de faire du neuf avec du vieux en fusionnant deux pièces, en récupérant un beau tissu complètement ringard pour lui donner une seconde vie et donc créer un nouvel objet. Différentes études sur le sujet estiment même que d'ici 10 ans, un tiers des vêtements conservés par une personne sera dédié à la seconde main, alors qu'aujourd'hui, 60% des Français possèdent des vêtements qu'ils ne portent jamais.
Et puis des marques qui revendiquent travailler selon les principes de la slow fashion.
Alors, il s'agit souvent de marques européennes qui ont décidé de produire moins, plus près du consommateur, souvent en Europe. Les entreprises affichent ce qu'elles nomment un juste prix, transparent, et font d'ailleurs peu de soldes. Quand un produit n'est plus accessible, il faudra attendre plusieurs mois, le temps d'une nouvelle production, où les matières premières sont elles aussi choisies pour leur caractère éthique. Et même les banques qui financent l'entreprise sont choisies pour leur caractère coopératif. Elles n'ont pas encore véritablement de label européen, mais plusieurs plateformes leur sont dédiées sur le net, comme Slow We Are en France ou Sustainable Fashion Matters à Berlin, qui propose de localiser les marques européennes slow et d'en faire la promotion.
Merci Eve, à la semaine prochaine. I am a very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. Et l'on retrouve Julia Faure, cofondatrice de la marque Loom. Vous aviez en tête tous ces enjeux quand vous avez créé votre marque il y a 2 ans?
Au début, quand on a créé Loom, notre vrai problème, c'était plutôt la qualité des vêtements. C'est-à-dire, en tant que consommateur, peu importe l'argent qu'on mettait dans les vêtements qu'on achète, on n'arrivait pas à savoir si dans le temps ils allaient tenir ou pas. On n'arrivait pas à savoir s'ils allaient être de qualité ou pas. Et donc on pouvait acheter un t-shirt à 50 euros et qui bouloche ou qui rétrécisse après de lavage. Mais il se trouve que ce problème de qualité des vêtements, c'est quelque chose qui traverse toute l'industrie textile et qui a été amené par la fast fashion. Si vous voulez proposer un t-shirt à 5 euros, eh bien il va falloir rogner sur certaines choses, dont la qualité du t-shirt, les conditions de travail de celles qui font ce t-shirt, et également l'impact environnemental de ce t-shirt. À 5 euros un t-shirt en magasin, je peux vous dire que personne n'a traité les déchets qui en découlent.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Julia Faure, si on veut s'habiller sans avoir trop d'impact sur l'environnement?
Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que la première chose à faire, ouais, c'est de porter ses vêtements longtemps. La vraie chose qu'il faut se demander avant d'acheter un vêtement, c'est est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que c'est ma taille? Est-ce que vraiment je vais le porter? Arrêtez d'acheter 2 tailles en dessous parce que c'est en promo, parce qu'au final, ces vêtements-là, vous n'allez jamais les porter. Est-ce que le style va vraiment me plaire? Est-ce que je vais pouvoir le mettre avec d'autres choses? Et dans ce cas-là, si vous répondez oui à toutes ces questions, bah oui. Après, il y a la question, est-ce que c'est produit dans des conditions éthiques? Est-ce que les matières utilisées ont un moindre impact sur l'environnement? Mais ça, pour moi, c'est limite une question à se poser dans un second temps.
Si les gens portent leurs vêtements longtemps, est-ce que c'est bon pour les affaires? Vous voulez être rentable, non?
Notre vrai combat, c'est que les gens arrêtent d'acheter de la fringue jetable. Ils arrêtent d'acheter à la fast fashion. Donc déjà, même si une toute petite partie commence à acheter chez nous, on ira très bien économiquement. Et à terme, les entreprises n'ont pas vocation à croître infiniment. Je pense qu'à partir du moment quand on atteint une taille de marché, quand on atteint une taille de croissance, qu'on a atteint une certaine rentabilité, on n'est pas obligé de grossir de 20% par an. Et donc, nous, est-ce qu'on a besoin de faire de la promo si c'est pour croître de 20% par an, mais du coup, rogner nos marges ou tromper le client en faisant des prix artificiels? C'est pas du tout ce qu'on a envie de faire, quoi. Et même, c'est malhonnête, en fait. Et les marques qui font ça sont un peu malhonnêtes, donc il faut arrêter de les encourager.
Julia Faure dans Accent d'Europe. Début de prise de conscience du consommateur, intérêt de certains créateurs. Et puis du côté des fournisseurs, eh bien il y a la Turquie qui se maintient parmi les géants de l'industrie textile et du prêt-à-porter. Elle est le 6e plus gros exportateur mondial de vêtements, le 3e fournisseur de l'Union européenne. Et la Turquie se distingue notamment par sa production de denim, les jeans, mais aussi les produits associés que le tissu sert à fabriquer. Dans un secteur souvent critiqué pour son impact environnemental, décrié il y a une dizaine d'années à cause d'un scandale sanitaire, Anandlauer a rencontré quelques acteurs qui tentent d'insuffler un changement de l'intérieur, un jean après l'autre. Reportage à Istanbul.
Des ateliers de créateurs aux productions de masse, la Turquie est un grand pays de textiles. Et parmi tous les tissus, de toile denim en particulier. Sur le podium des exportateurs, avec 10% du total mondial, elle occupe la 3e place derrière la Chine et Hong Kong. Elle est, de loin, le premier fournisseur de l'Europe. La Turquie est aussi, après la Chine et le Bangladesh, le 3e exportateur de jeans au monde. Le problème avec le denim, plus qu'avec d'autres produits textiles, c'est que ce tissu et sa transformation en un pantalon, une veste, gaspillent énormément d'énergie. Nermin Kösé conseille des entreprises du secteur depuis une quinzaine d'années en Turquie.
Ça commence dès la teinture du coton. Comparé aux autres tissus, le denim utilise énormément d'eau et d'électricité car il faut le teindre à plusieurs reprises. Ensuite, il y a bien sûr l'étape du lavage. La plupart des textiles que vous utilisez ne sont pas lavés. Pour le denim, c'est différent. Il faut une succession de lavages et de séchages pour obtenir le tissu voulu, ce qui entraîne là encore une grosse consommation d'énergie.
Consciente de ces problèmes, cette consultante de 38 ans, qui est aussi designer, a créé il y a 3 ans sa propre marque de jeans, Away Denim. Coton bio, teinture naturelle, rinçage unique pour assouplir la fibre, sa petite entreprise se fournit en tissu auprès de 3 fabricants turcs connus pour leur démarche éthique et éco-responsable. D'ailleurs, selon Nermin Kösé, qui connaît le secteur comme sa poche, c'est davantage du côté des marques de jeans que des producteurs de denim que le bât blesse en Turquie.
Certaines marques européennes et américaines se sont lancées dans des collections de jeans durables et ce sont elles qui initient le changement. Mais ce changement n'est pas encore arrivé en Turquie où les marques ne s'intéressent pas beaucoup à ces enjeux. En revanche, chez les producteurs turcs de tissus, dont le métier exige d'être toujours en quête d'innovation, la durabilité est un concept très important ces dernières années. Beaucoup ont pris conscience du gaspillage de ressources qu'impliquait leur secteur et n'hésitent pas à faire de gros investissements pour produire différemment.
Outre ses effets néfastes sur l'environnement, le dénime turc reste associé à un scandale sanitaire, celui de la silicose. Cette affection pulmonaire, des centaines d'ouvriers l'ont contractée en sablant des jeans, c'est-à-dire en leur projetant du sable à haute pression pour leur donner un aspect usé. La technique était employée massivement dans les ateliers du pays entre la fin des années 1980 et mars 2009, date de son interdiction. 10 ans plus tard, le sablage a complètement disparu, se félicite Abdulalim Demir, qui préside un comité de soutien pour les malades et a noué au fil du temps des contacts à travers le monde.
Nous avons fait des recherches et je suis absolument certain que le sablage n'existe plus en Turquie. Cela a créé un tel scandale sanitaire que tout le monde est au courant. Les marques et les fabricants ne veulent plus prendre de risques. D'ailleurs, d'autres pays en sont revenus. Par exemple, le Bangladesh n'a pas encore interdit le sablage, mais on sait que là-bas, le nombre d'ateliers qui utilisent cette technique n'est plus aussi élevé qu'autrefois.
Pour autant, les ouvriers turcs du jean travaillent-ils désormais dans des conditions saines ? Abdulalim Demir, qui préside également une campagne nationale pour un habillement dit propre, n'en est pas sûr.
Désormais, les fabricants turcs utilisent tous une technique chimique à base de permanganate de potassium. Nous sommes en train de mener une étude de terrain pour savoir si cette méthode est nocive. Nous savons que l'Agence européenne des produits chimiques a rédigé un rapport de 60 pages qui demande à l'Union européenne de classer le permanganate de potassium parmi les produits toxiques. Sachant qu'à travers le monde, 90% des jeans sont blanchis avec cette technique et que sa toxicité dépend beaucoup des conditions d'utilisation. Les ouvriers sont-ils correctement protégés ou pas, c'est ce que nous voulons découvrir.
La créatrice Nermin Kösek, qui n'applique aucune patine, aucune usure, aucun délavage sur ses jeans, espère que l'Europe interdira un jour le permanganate de potassium. Outre l'usage de produits chimiques, cette Turque, qui, comme designer et consultante, navigue dans le secteur depuis plus de 15 ans, s'inquiète de ces évolutions récentes.
J'ai le souvenir d'avoir créé avec les marques des produits de grande qualité. Mais ces 10 dernières années, avec l'avènement de la fast fashion, j'ai l'impression qu'on produit surtout des déchets. La qualité des tissus de Nîmes est de plus en plus mauvaise parce que les marques turques se fournissent désormais pour 50 à 60% de leur production chez des fabricants asiatiques. La mode s'accélère aussi avec des collections sans cesse renouvelée et qui ne compte plus 100 mais 300 modèles à chaque fois. Les designers en viennent à copier-coller les produits plutôt que de créer de nouvelles choses.
Un phénomène que constate aussi Saadi Tekin, qui confectionne les jeans imaginés par Nermin Kösek. Ce Turc spécialisé depuis 20 ans dans la couture de produits dénime regrette des conditions de travail de plus en plus difficiles.
On nous demande de produire des collections entières en l'espace d'une semaine. On fait ce qu'on peut, mais parfois on est débordé. En plus, on nous pousse à produire toujours moins cher, parfois moins cher que la valeur du produit qu'on confectionne. Les consommateurs l'ont oublié, mais il faut payer un peu plus cher pour avoir un produit de qualité.
Paradoxalement, la créatrice Nermin Kösek nourrit aussi quelques espoirs pour l'avenir de son secteur, mais à long terme.
Très lentement mais sûrement, les professionnels commencent à prendre conscience des aspects très peu éthiques du denim et des dégâts qu'il peut créer sur la nature et la santé. Encore une fois, ce sont surtout les fabricants de tissus qui portent ce changement en Turquie. Je le vois quand je me rends dans des salons textiles. Tout le monde essaie d'apporter une réponse à la question « Comment produire de manière plus saine et plus durable ?»
Mais cette chef d'entreprise qui vend entre 500 et 1000 modèles par an, une goutte d'eau sur le marché turc, constate à regret que les consommateurs ne sont pas encore sensibles au concept de mode durable. En Turquie, les marques de dénim qui en ont fait leur credo se comptent sur les doigts d'une main et elles peinent à se développer. La jeune femme a donc décidé de chercher des clients ailleurs, notamment en Europe du Nord.
Et dans le monde de la mode aussi, il y a une prise de conscience. Ce matin à Paris, c'était le défilé de Marine Serre, lauréate l'an dernier du prestigieux prix de la Fondation LVMH. Elle s'est fait connaître en recyclant des vêtements, des foulards de soie transformés en robes, une audace folle dans ce petit monde de la haute couture et du prêt-à-porter. Préoccupation partagée à l'Université Centrale Saint-Martin's de Londres aussi. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. Elle vient d'où la musique qu'on entend là ?
Alors ce qu'on entend ici, c'est la musique d'un des défilés de l'université londonienne, donc Centrale Saint-Martin's, un établissement qui est connu pour opérer les talents de demain.
Et le monde de la mode, il aime les défis, les grandes causes à défendre. Du coup, les jeunes créateurs qui feront la mode de demain s'intéressent pour certains à une mode plus écolo. Ça ressemble à quoi cette mode écolo, Marie ?
Alors, pour un profane, ça ressemble à n'importe quelle autre création originale et déjantée, hein, celle dont on a l'habitude dans ce genre de défilé. Si les tissus jouent un rôle important, on ne voit vraiment pas la différence. Par exemple, on sait que la mode éco a son origine dans la Seconde Guerre mondiale, hein, quand, à cause du rationnement, il fallait économiser le tissu. Les jupes se sont raccourcies à ce moment-là, les vêtements sont devenus moins amples. Alors, il ne faut pas du tout imaginer ce genre de choses dans le défilé que Central Saint Martin a fait la semaine dernière. Il y a des manches bouffantes qui ne sont pas attachés au reste des vêtements. Il y a des jupes style africain qui sortent d'un tailleur très européen. Il y a aussi des formes assez incroyables avec ce qu'on va décrire comme des trous, hein, mais qui bien sûr sont un peu plus pensés que ça. En tout cas, on se doute bien que ce sont des bouts de tissu qui ont été coupés. Alors, est-ce qu'ils ont été réutilisés, ces bouts de tissu ? Alors, peut-être. Une jeune designeuse a créé une collection très colorée qui ressemble presque à des puzzles de différents Picasso. On imagine très bien que ces vêtements-là sont faits de bouts de tissu découpés.
Alors ça, c'est la solution couture. L'autre solution, Marie, c'est le recyclage.
Oui, mais il y a encore du boulot. Au Royaume-Uni, moins d'1% des tissus des vêtements sont transformés pour créer un nouvel habit. En revanche, 235 millions d'habits se retrouvent à la décharge chaque année dans le monde. Bref, s'il faut utiliser des matières qui ne sont pas bonnes pour l'environnement, eh bien autant les réutiliser. C'est pour ça qu'on critique beaucoup la fast fashion. Et les Britanniques achètent en moyenne chaque année 26,7 kilos d'habits. Alors, la slow fashion,
ça c'est le contraire.
C'est le contraire, fait donc son apparition à partir de là, et certaines grandes marques s'y sont engagées. Marks & Spencer, notamment, donne des bons aux clients qui ramèneraient leurs vieux vêtements. C'est ce que la marque british appelle le plan A.
Puisqu'il n'y a pas de plan B.
Effectivement, et le conseil pour le recyclage britannique cite aussi Adidas, qui ne compte utiliser que du polyester recyclé pour créer ses chaussures d'ici 2024. Bottle Top aussi, qui collabore avec Mulberry pour lancer un sac de luxe, certes, mais fait uniquement de matériaux recyclés. Alors, c'est une manière de faire que les politiques veulent encourager au Royaume-Uni. C'est pour ça que les députés envisagent d'imposer une nouvelle taxe aux fabricants et aux marques, 1 centime pour chaque vêtement vendu, pour financer un projet de recyclage à hauteur de 40 millions d'euros.
Merci Marie Billon, à bientôt.
À bientôt.
In the Netherlands alone, around 1.5 million kilograms of gum finds its way onto our pavements every year. Then we teamed up with Amsterdam-based shoe brand Explicit to create the first shoe ever made from recycled gum.
Une pub pour des baskets aux semelles de chewing-gum. Et oui, à Amsterdam, la municipalité a eu l'idée de se servir de la mode pour régler un problème de pollution. Un problème qui colle un peu aux semelles de toutes les villes du monde. On en parle avec Antoine Mouteau. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant aux Pays-Bas. Les vieux chewing-gums sur les trottoirs, chaque année il y en a environ 1,5 million de kilos sur les routes, les trottoirs, dans tout le pays. Et donc à Amsterdam, Antoine, on les recycle pour les transformer en chaussures à la mode.
Oui, des chaussures de sport bleues ou rose bonbon, ou plutôt couleur chewing-gum. Les images sont alléchantes et se trouvent sur de nombreux panneaux publicitaires de la région d'Amsterdam. Les sneakers sont recyclés à partir de chewing-gum et viennent des rues de la capitale, peut-on lire sur les affiches. Depuis longtemps, ici comme partout ailleurs, le retrait des chewing-gums collés sur l'asphalte et les pavés est un véritable calvaire pour les autorités. Sauf que la municipalité d'Amsterdam a décidé de voir les choses autrement, en récupérant le chewing-gum qu'elle envoie ensuite à des sociétés sous-traitantes qui le recyclent. Et ça afin de fabriquer les semelles des chaussures.
Antoine, elles ont des semelles en chewing-gum, donc c'est très mou, non ?
Le chewing-gum entre à moins d'un tiers dans la composition de la semelle. Pour garder une certaine rigidité, c'est vrai, 4 paires de chaussures représentent environ 1 kilo de chewing-gum usagé. Alors les chaussures ne sont pas données du tout, près de 200 euros la paire, un peu à l'image de certaines chaussures de marque qui attirent beaucoup les jeunes.
Merci Antoine Mouteau, à bientôt.
À bientôt.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, vous nous suivez, vous nous réécoutez sur les réseaux sociaux et sur internet, sur RFI.fr, c'est l'onglet podcast en haut à droite de votre écran. Et on se retrouve ici demain à la même heure.